Alors, ce soir, c'est une des. Je ne fais pas ça souvent d'apporter le message. Alors, je vous dis un peu que je cherchais un peu sur quel thème parler. Et puis, j'avais une idée dans la tête. Je me suis mis j'ai un livre qu'on nous avait recommandé quand on a pris des cours bibliques. Ça s'appelle Théologie de base d'un nommé Ryrie. Alors, le mien, il est en anglais, mais il existe en français, ce livre. Et ça présente beaucoup d'aspects sur Dieu. C'est, comme ça dit, théologie de base. Et pour finir, je me suis arrêté sur un thème qui me paraît intéressant. J'aimerais parler des anges. Des anges, ça sort de la Bible, les anges. Et tout d'abord, je me rappelle, il y a 20 ou 25 ans, il y avait une émission à la télévision suisse romande qui devait s'appeler La Minute œcuménique. Ou c'est peut-être une autre émission, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, c'était une professeure de théologie de l'Université de Genève qui parlait et qui disait que une fois, je ne sais pas si c'est elle qui a eu ça ou si elle parlait de quelqu'un d'autre, il y avait un enfant qui demandait, c'est comment un ange? Alors, elle a dit, cette personne a expliqué que c'était quelqu'un de puissant, c'était quelqu'un d'invisible. Et puis, il demande à l'enfant, tu as déjà vu un avion à hélice? Tu l'as déjà vu stationner dans un aéroport? Regarde, tu vois l'hélice. Tu peux même mettre le doigt entre les hélices quand le moteur tourne pas. Et c'est une chose curieuse, mais quand on fait tourner le moteur, on ne voit plus l'hélice. Mais essayez de mettre le doigt au milieu des hélices quand ça tourne. Donc c'est pour décrire une similarité avec les anges qu'elle a donné cette explication. Voilà. Et donc dans cette étude que j'ai vue, que j'ai lue, il y a d'abord notre prédisposition naturelle d'être humain. On est un peu anti-supernaturel. On est d'accord, on a une appréhension un peu, on ne peut pas expliquer ça. Et la plupart d'entre nous avons tendance à chercher d'autres explications pour des phénomènes que nous avons de la peine à comprendre. C'est mystérieux, les anges. Nous sommes d'accord. Mais en d'autres mots, de limiter ce que Dieu a créé, parce qu'il a créé les anges, même on limite sur des choses qu'on ne voit pas mais qui existent, ça n'exclut pas qu'il y ait quand même des anges. Alors nous allons nous concentrer sur les révélations bibliques, parce que c'est la Bible qui parle beaucoup d'anges d'ailleurs. Et il y a dans ce commentaire, il y a une classification sur trois principaux caractéristiques des anges. Et ce serait un thème extensif. Ça c'est-à-dire c'est très large, c'est étendu comme thème. Juste dans l'Ancien Testament, il y a déjà 100 mentions d'anges. Et dans le Nouveau Testament, plus de 165 mentions. Ça, c'est la première caractéristique. Donc, la Bible parle énormément d'anges. Et il y en a certains qui sont même nommés. Deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont mentionnés tout à travers la Bible. Ce n'est pas restreint à, par exemple, à une période donnée, historiquement. C'est étalé sur toute la Bible, toutes les périodes. Ce n'est pas non plus restreint à seulement une partie des Écritures ou seulement à certains auteurs qui en parleraient dans la Bible. Non, c'est vraiment répandu. Et dans 34 livres, il y a la mention d'anges. Et ça commence avec les premiers livres qui sont Genèse ou Job, c'est les plus anciens livres, mais ça va jusqu'à Apocalypse, le dernier livre, ou probablement le plus frais des livres, le plus récent par rapport à nous. Et ensuite, la troisième caractéristique, c'est notre Seigneur Jésus inclut dans son enseignement un certain nombre de références qu'il fait aux anges comme étant des êtres réels. C'est réellement, il y a des anges, ça existe. Et de douter que c'est vrai, c'est douter de Jésus. Voilà. Tout d'abord, c'est les anges sont des messagers. Abraham, par exemple, dans l'Ancien Testament, il a parlé avec des anges qui sont venus le visiter. C'est dans le chapitre Genèse 18 qu'il peut être intéressant de relire ça. C'est lorsque Dieu lui a fait annoncer qu'il aura un fils, alors qu'il en avait déjà fabriqué un avec une servante. Et là, les trois anges, ils mangent même avec Abraham. Et c'est donc Genèse 18. Ensuite, l'ange de l'Éternel, nous savons que l'ange de l'Éternel, il représente Jésus avant son incarnation, avant qu'il ne naisse. Et ça, c'est annoncé dans le Nouveau Testament. Et l'ange de l'Éternel, il exécute, par exemple, des jugements. Et il y a un exemple, par exemple, sur Israël. Israël, le pays a été puni parce que le roi David, il voulait savoir quelle force il avait. Il dénombrait le peuple d'Israël. Et ça a déplu à Dieu. Et là, il a été puni, le peuple. Il y a eu des pestes. Et je vais vous lire le verset. C'est en 2 Samuel 24-16. Et l'ange étendit sa main, donc c'est l'ange de l'Éternel, sa main sur Jérusalem pour la détruire. Et l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui détruisit parmi le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » Or l'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arona, le Jébusien. Voilà. Donc ça, c'est l'ange de l'Éternel, un exemple. Ensuite, dans le livre d'Ésaïe, et il y a une référence à des séraphins, c'est un groupe d'anges, et nous lisons en Ésaïe 6, 2, « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, de deux ils se couvraient la face, et de deux ils se couvraient les pieds, et de deux ils volaient. » C'est assez curieux comme phénomène, non ? Un ange qui a six ailes, deux pour se couvrir la face, deux pour se cacher les pieds et deux pour voler. Six ailes, donc. Et dans Ézéchiel, nous avons la mention de chérubins, verset 1 à 3 du chapitre 10. Et je regardais, donc ça c'est Ézéchiel le prophète, et voici, sur l'étendue qui était au-dessus de la tête des chérubins, parut comme une pierre de saphir, comme l'aspect de la ressemblance d'un trône, au-dessus d'eux. Et il parla à l'homme vêtu de lin et dit, « Viens entre les roues, au-dessous du chérubin, et remplis le creux de tes mains de charbon de feu pris d'entre les chérubins, et répands-les sur la ville. Et il entra devant mes yeux, et les chérubins se tenaient à droite de la maison lorsque l'homme entra, et la nuée remplissait le parvis intérieur. » Ça, c'est autour du temple que ça se passe. Et on a eu des prédications ou même des cours, mais je ne pourrais pas vous l'expliquer. Ézéchiel 10, c'est un fameux chapitre où il y a eu des visions de personnages, on pourrait presque dire fantastiques. Je serais incapable de dessiner ce qui est expliqué là-dedans. C'est ce chapitre où il est question de roues dans les roues. Voilà. Ça, c'est juste pour vous donner envie de le lire. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons dans le livre de Daniel, il fait mention d'un ange qui s'appelle Gabriel. Daniel 9, les versets 20 à 27, je ne vais pas vous le lire, mais je continue avec le livre de Daniel. Et après, il parle de Michaël et l'archange. Là, et apparemment, je ne sais pas ce qui est juste, mais Michaël est vraiment l'archange des archanges. Et Michaël a été attribué à Israël pour s'occuper d'Israël. Donc, on va lire Daniel 10, le verset 13. Mais le chef du royaume de Perse, faut dire que Daniel était avec le peuple d'Israël en captivité à Babylone. Ça se passe à ce moment-là. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michaël, un des premiers chefs, vint à mon secours, et je restai là auprès des rois de Perse. Ce qui signifie, parce que c'est ce qui est dit là, ça vient de Gabriel, l'autre ange dit ça, mais le chef m'a résisté. Et Michael, un des premiers chefs, donc c'est probablement Michael est son chef. L'ange Michael est le chef de l'ange Gabriel. Et ça veut dire que Michael est peut-être le seul archange du point de vue judaïque. Et je dis ça parce qu'il est mentionné qu'un archange viendrait enlever l'Église à la fin des temps. Et nous lisons ça en 1 Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, j'ai vu, regardez dans, il y a des commentaires qui disent avec la voix d'archange, pas d'un archange, la voix d'archange. Donc c'est pas un, c'est ce qui signifierait, comme il n'est pas nommé par Paul dans ce chapitre, pour lui, il n'y en a qu'un, et c'est Michael. Et donc ça, c'est l'avenir. C'est un avenir qui nous attend, nous, les croyants. Et donc, je continue le verset 1 Thessaloniciens 4,16. « Et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc, ça nous concerne. Si nous mourons avant que Jésus revienne et que nous nous soyons enlevés après ceux qui sont morts. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Il se passera un événement à la fin du temps de l'ère de l'Église où nous serons, nous les croyants, nous irons au ciel, nous serons arrachés au ciel. Et ça se passe par Jésus qui vient nous chercher et l'archange Michael sera certainement celui qui criera à ce moment-là. Voilà. Et si ça nous arrivait durant notre vie, on devrait attendre que les morts enterrés actuellement qui croyaient soient enlevés aussi. Et après, c'est nous. Ça serait quelque chose de phénoménal de pouvoir s'en aller. On laisserait toutes nos clamottes tomber ici. Il y aurait un de ces chenilles pour ceux qui restent, qui n'auront pas cru en Jésus. Voilà. Jude, le verset 9, il est de nouveau question de l'archange Michel, mais Michel l'archange, quand discutant avec le diable, il contestait, touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui. Mais il dit que le Seigneur te censure. Et ça, c'est le diable. Nous savons que le diable était un archange qui a voulu prendre la place de Dieu et Lucifer, donc. Et l'archange Michel s'est disputé avec cet archange Lucifer, le diable. Il est nommé comme diable dans ce verset. Et il n'a pas pris le dessus en commandant quelque chose. Mais ce que nous pouvons retirer de ce verset, c'est que il est dit dans la Bible que le corps de Moïse n'a pas été retrouvé, mais l'archange Michel devait être impliqué dans son enterrement physique. Voilà. Nous, plus tard, on sait que dans la transfiguration avec Jésus, Moïse est dans son état de ressuscité glorieux. Voilà. Dans le chapitre de Zacharie, je ne vous lis pas de verset, il y a 19 fois l'ange qui est mentionné dans les chapitres 1 à 6 de Zacharie. Et dans les psaumes, souvent il est question des anges qui adorent Dieu. Et il y a évidemment l'ange de l'Éternel délivre des gens de certains préjudices. Nous avons deux exemples. En psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il faut comprendre pas la crainte, la peur, mais le respect, ceux qui le respectent, et les délivre. Et psaume 91, 11, il est dit, car il, en parlant de l'ange, de l'Éternel, car il commandera à ses anges, à ton sujet, de te garder en toutes tes voies. Voilà. Passons au Nouveau Testament. Et là, nous avons beaucoup de mentions. Il y a des anges autour de la naissance, durant la vie et durant sa résurrection et aussi pour son ascension. Il est question d'anges là autour. Et j'ai des passages que je peux vous lire. Vous allez comprendre à quoi ça se réfère. Matthieu 2, 19. Or, Hérode étant mort, voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte, disant, lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et va dans la terre d'Israël, car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. Alors ça, c'est Joseph, le père adoptif, en quelque sorte, puisque le vrai père, c'est Dieu, il s'est enfui en Égypte et là-bas, un ange lui a dit, tu peux revenir maintenant avec Jésus dans ton pays. Luc 2, 13, ça c'est évidemment, quand on fête Noël, on entend souvent ce verset. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. Dans Jean 20, verset 12, Jésus vient de disparaître du tombeau, c'est-à-dire il est ressuscité, et cette scène montre, je ne sais pas si c'était Marie, je pense que c'était Marie, ou Marthe, et c'est une des femmes qui sont allées dans le tombeau, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Donc il n'y est plus dans le tombeau, Jésus. Il est ressuscité. Donc, après, c'est encore un verset, ces deux versets, lorsque Jésus est monté au ciel, en Acte 1, 10 à 11, et comme il regardait fixement vers le ciel, tandis qu'il s'en allait, voici deux hommes en vêtements blancs se tinrent là à côté d'eux, qui aussi dirent, homme galiléen, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. C'est ce que nous espérons tous, qu'il revienne comme il est parti, il revienne de la même manière, du ciel. Jésus a enseigné, c'est la Bible qui révèle qu'il a été tenté, Jésus, dans le désert, et il n'y a personne qui a vu ça. Nous sommes donc, c'est notre foi qui doit confirmer que c'est vrai ce qui est dit sur la tentation de Jésus. Et à la fin de la tentation, il y a des anges qui le servaient. Et ça, c'est pas ça. Jésus a enseigné que nous, les êtres humains, les hommes, les femmes, une fois que nous serons ressuscités, nous serons semblables à l'état des anges. Nous serons donc comme des anges. En Matthieu 22, 30, nous lisons. Ça, c'est, il reprend des pharisiens qui voulaient tendre un piège à Jésus en disant, voilà, telle et telle situation, il y a la loi de Moïse dit que quand une femme meurt, qui va être la femme suivante de l'homme, etc. Et jusqu'à 7, il demandait. Là-dessus, il répond Jésus, car dans la résurrection, on ne se marie ni on est donné en mariage, mais on est comme des anges de Dieu dans le ciel. C'est important. Mais on est comme des anges de Dieu dans le ciel. Jésus a aussi enseigné, ça c'est dans la parabole de l'ivraie, que des anges vont séparer les justes des injustes, les croyants des incroyants. Et en Matthieu 13, 39, en parlant de et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. C'est le diable qui a semé l'ivraie. Et la moisson, c'est la fin du siècle ou la consommation du siècle. C'est la fin des temps. Et les moissonneurs sont des anges. Ceux qui font ce travail seront des anges. Voilà. Il a aussi enseigné, parlant de lui-même, en état d'ange, nous serons avec lui pour revenir sur terre. C'est à la fin de la tribulation. Matthieu 25, 31. Or, quand le Fils de l'homme viendra, le Fils de l'homme, c'est dans ce cas, c'est lui-même Jésus qui le dit, dans sa gloire, quand Jésus reviendra, on l'a vu, il est ascendu au ciel, et quand il reviendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ça veut dire que nous, les croyants, nous serons avec lui sous forme d'ange. Et nous reviendrons. Et il y a toute une implication derrière cela. Ce n'est pas forcément dans la séquence que Jésus s'assiera sur le trône, mais ça se passera après d'autres éléments, encore d'autres événements dans le ciel. Il a aussi enseigné que nous ne devrions pas mépriser les enfants. Matthieu 18, 10, « Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Ce qui signifie que nous croyons que si Dieu veut nous protéger, il utilise pour ça des anges. Si nos enfants doivent être protégés comme Dieu pense, je veux les protéger, il utilise des anges pour faire ça. Et il y a aussi en Matthieu 26, 53, il y a Pierre dans le jardin de Gethsémane a coupé l'oreille de Malchus et la réaction de Jésus était celle-ci en Matthieu 26, 53. « Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père et il me fournira plus de 12 légions d'anges ?» Ce qui montrerait que tu causes toujours, mais moi, si j'appelle mon Père, ben, tu ne peux rien faire. Et il a dit qu'il lui donne à l'instant même 12 légions d'anges. Donc c'est quelque chose qui aurait été très rapide, mais il n'a pas utilisé ça, Jésus. Il est allé à la croix quand même. Les anges sont des créatures et ils ne créent rien. Mais pourtant, ils sont distincts des êtres humains. Ils sont créés en tant qu'anges, les anges. Ce n'est pas quelqu'un comme nous, on deviendrait comme des anges, mais pas des anges, même si on nous appelle anges lorsqu'on sera au ciel. Hein. On est des créatures différenciées. Les anges convertis, ex-hommes convertis, et anges créés par Dieu. Et leur nombre, il a été fixe dès le début. Tous les anges ont été créés, on ne sait pas combien il y en a, mais on a des passages dans la Bible où il est dit il y a un tiers qui sont devenus des démons. Donc, ça veut dire, si un tiers est des démons, Dieu connaît exactement le nombre des anges créés qui sont devenus démons. D'ailleurs, l'apôtre Jean, en Jean 1, 1 à 3, dit que tout a été créé par Jésus-Christ. Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Et Colossiens 1, 16, en parlant de Jésus, Paul dit, « Car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, les anges sont dans les cieux, ils descendent certainement, ils remontent. Et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles. Les anges ne sont pas toujours visibles. Peut-être ils sont dans quelqu'un ou chargent quelqu'un de faire leur, ce à quoi ils sont appelés. Donc les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. En Job 38, versets 6 à 7, nous pouvons déduire que dans l'ordre de la création, les anges ont été créés avant la terre. Et Job 38, parlant de sur quelle base la terre est-elle assise, sur quoi ces bases sont-elles assises, en parlant de la terre, ou qui a placé sa pierre angulaire, c'est Dieu qui dit ça. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Et les, je soupçonne, sans être certain, que ce sont les fils de Dieu qui sont des anges. Hein. Et ça, je ne sais pas, les étoiles du matin, ça ne me paraît pas vraisemblable. Mais et tous les fils de Dieu éclataient de joie. Donc les anges, ils sont tellement heureux. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est les anges ont donc été créés saints, c'est-à-dire ils appartiennent à Dieu, et ceux qui se sont liés à Satan, ben ils ont perdu leur sainteté. Donc les anges sont saints. Nous devenons saints dès que nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes mis à part pour Dieu lorsque nous croyons. En 1 Corinthiens 6, 3, nous lisons « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Et nous ne jugerions pas les affaires de cette vie. Paul écrit ça à une église de croyants, mais un peu débauchée comme église. Et ce qui en ressort, que c'est le futur, nous jugerons les anges. Actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, nous sommes inférieurs aux anges. Nous devrions surtout craindre les démons, n'est-ce pas? Et Hébreux 1, 14, à quoi servent les anges? D'après l'écrivain aux Hébreux, ils ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? Qui sait, que peut-être un ange vous parle sans que vous le reconnaissiez en tel. Il parle au cœur, sont administrateurs pour ceux que Jésus appelle à croire en lui. Ils ont une personnalité, intelligence, émotion et volonté, puisqu'on a lu qu'ils chantaient, ils avaient de la joie. Et ces particularités, c'est vraiment aussi bien les démons que les anges qui les ont. Ils sont immortels, mais ils ne se propagent pas, c'est-à-dire ils ne se multiplient pas. Ils ne meurent pas, nous pouvons déduire ça de Luc 20, verset 36. Car aussi ils ne peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges, en parlant de ceux qui vont aller au ciel et qui deviennent anciennement hommes, ils deviendront anges. Mais ça, donc ça veut dire que ça s'applique aux anges, ils ne peuvent pas mourir. Et les démons, ils seront punis. Matthieu 25, 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Et en Luc 8, 31, c'était lorsque Jésus a chassé des démons d'un... Je ne sais plus comment on appelle. Quelqu'un qui était possédé. Et il a chassé les démons dans des porcs. Et les porcs se sont jetés dans le lac. Et Luc 8, 31 dit cela. Et il le priait, donc les démons priaient Jésus pour qu'il ne leur commanda pas de s'en aller dans l'abîme. C'est leur destination finale, l'abîme. Et le dernier verset que je veux dire, c'est quelque chose qui souligne un fait que nous connaissons, Hébreux 2, 7 à 9. Tu l'as fait un peu moindre que les anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds, car en lui assujettissant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient assujetti. Mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que, par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Ça veut dire quelque chose. J'ai dit que Jésus Christ a créé les anges et lui s'est soumis. Il est devenu inférieur aux anges. Rendez compte le risque qu'il a pris pour nous sauver. Nous aussi, nous sommes inférieurs aux anges actuellement, inférieurs aux démons. Nous serons élevés en croyant. Et nous jugerons les anges. Voilà. Le thème est clôturé. J'espère que ça vous donne la matière à étudier. Voilà. Si c'est le cas, je ne l'ai pas parlé pour rien. Merci. Merci Seigneur de m'avoir fait à moi plaisir de découvrir toutes ces choses. Et de mettre une vision intériorisée de ce que c'est le chapitre des anges. Merci. Au nom de Jésus. Amen.